Oui, ça, c'est vraiment pas. Donc, bienvenue. Ici démarre donc l'enseignement intitulé La démarche sociologique dans son deuxième module, Panorama des méthodes. Nous allons particulièrement aujourd'hui essayer d'approfondir la question de l'enquête en tant qu'étape, mais aussi en tant qu'ensemble de choix techniques à opérer. Je m'appelle Eve Gardien, je suis maître de conférences, je travaille à l'université de Rennes 2. Je suis une sociologue qui pratique de manière quasi permanente des enquêtes de terrain et aussi c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille au sein de ce cours. Les objectifs du cours. L'objectif global, principal, essentiel, c'est apprendre à monter une enquête de terrain. Apprendre à monter une enquête de terrain suppose de développer un ensemble d'autres capacités, d'autres savoirs, notamment savoir décider quel type de données seront pertinentes à recueillir au regard des objectifs qu'on s'est fixés, au regard des savoirs qu'on décide de construire. Il s'agit aussi d'être capable de définir un champ d'études, quels sont les terrains qui permettent de recueillir les données qu'on a choisies. Ensuite, il s'agit d'apprendre et de comprendre comment on opte pour un échantillonnage. Donc, comment on opte pour un échantillonnage ou un autre type d'échantillonnage et savoir le justifier. Une quatrième compétence est celle de savoir choisir parmi plusieurs techniques de recueil de données, savoir en choisir une ou plusieurs, savoir les assembler quand c'est nécessaire. Il s'agit aussi d'être capable de construire un outil d'enquête et de savoir justifier cette construction, qu'elle ait du sens et qu'elle permette effectivement de recueillir les éléments dont on a besoin pour ensuite procéder à une analyse. Et donc enfin, dans un dernier temps, aller sur le terrain et recueillir le matériau, comment est-ce qu'on se comporte, comment on rencontre les gens, comment on les met en confiance et comment on reste en lien avec eux. Nous débutons donc l'élément principal de ce cours, monter une enquête de terrain, et tout d'abord concevoir une stratégie d'observation. Dans ce module, nous allons approfondir trois éléments essentiels. Dans un premier temps, nous travaillerons sur l'enquête comme étape dans la démarche sociologique. Nous verrons donc les préalables à l'enquête, mais aussi nous la situerons comme un travail qui s'inscrit dans une démarche et donc sur les étapes qui poursuivent l'enquête. Un deuxième item sera développé, celui des grands types de démarches de recherche, qui vous permettra aussi de comprendre où se situe l'enquête suivant les types de démarches de recherche. Autrement dit, nous allons principalement travailler dans le cadre de ce cours, parce qu'il s'agit d'une initiation aux démarches de recherche, dans le cadre de la démarche hypothético-déductive, mais vous aurez aussi un ensemble d'informations qui vous seront dispensées concernant d'autres types de démarches de recherche. Et troisièmement, nous travaillerons dans le cadre de ce module sur la détermination des objectifs de l'enquête. C'est cette détermination des objectifs de l'enquête qui permet de fonder la totalité des choix à venir en matière d'enquête. Premier item donc, l'enquête dans la démarche de recherche. L'enquête est donc une étape qui s'inscrit dans une démarche de recherche. Donc l'enquête n'est pas la recherche et la recherche est beaucoup plus vaste que l'enquête elle-même. L'enquête arrive après tout un travail de préparation, travail qui est habituellement ou couramment intitulé construction de l'objet de recherche. Cette construction de l'objet de recherche elle-même requiert un certain nombre d'étapes que je vous rappelle et que vous avez déjà pu approfondir avec le cours précédent qui vous a été transmis par Émilie Potin. Donc cette première étape, je la résume. Il s'agit tout d'abord d'avoir un objet d'intérêt qui peut se manifester sous plusieurs formes. Il peut s'agir d'une question que très souvent on appelle question de départ ou question initiale. Il peut s'agir d'une intuition. On sent, on ressent qu'à cet endroit-là, il y aurait matière à approfondir et à développer de la connaissance. Ça suppose déjà une certaine connaissance de l'objet, en général par l'expérience. Ça peut être aussi un autre point de départ à une démarche de recherche. Simplement, vous avez un centre d'intérêt et vous aimeriez en savoir davantage. Ou encore une thématique, vous avez particulièrement d'affinité avec une thématique et vous aimeriez donc la développer. Voilà, donc autant de points de départ d'une démarche d'enquête qui sont tous aussi valables. Mais l'important n'est pas de rester à ce point de départ, mais d'être capable, à partir de ce point de départ, de construire ce qu'on appelle donc un objet de recherche. Un objet de recherche qui peut aussi être appelé une problématisation, qui consiste donc en la capacité à rédiger un argumentaire dans lequel se trouveront un certain nombre de questions de recherche, ou une seule. Cette question de recherche peut être appelée question de départ ou aussi problématique, suivant les ouvrages de méthodologie. Et toujours dans cet argumentaire, il se trouve aussi situé un certain nombre d'hypothèses. Autrement dit, l'objectif de la première étape qui se situe avant l'enquête est de produire une problématisation dans laquelle se trouvent les questions qu'on va se poser, qu'est-ce qu'on aimerait savoir, qu'est-ce qu'on aimerait expliquer, et ensuite, dans un deuxième temps, les hypothèses qu'on retient. Le tout est argumenté par des éléments théoriques essentiellement, mais aussi, il est tout à fait possible d'ajouter des éléments liés à une connaissance des terrains, a priori et en amont de l'enquête elle-même. Dans cette démarche de recherche, donc cette première étape, il s'agit à la fois donc de choisir un élément de départ, mais ensuite d'en approfondir la connaissance de manière à produire ou à construire ce qu'on peut appeler une connaissance générale. Donc à partir d'un travail d'information et de documentation préalable. Dans ce type-là de... À ce moment-là de la démarche de recherche, il s'agit avant tout d'un travail d'appropriation d'informations généralistes qui ne vise pas particulièrement des connaissances scientifiques. Il s'agit de mieux connaître l'objet lui-même, mais du point de vue ou des points de vue qui ont été construits dans le cadre de la culture et de la société dans laquelle vous travaillez. À partir de là, vous allez avoir une nouvelle série de questions qui découlera de ce premier travail d'information et de documentation préalable et qui permettra donc de déboucher sur ce qu'on appelle un travail exploratoire, lequel travail exploratoire suppose un approfondissement théorique. Mais et éventuellement une petite éventuellement et éventuellement l'incursion sur des terrains d'enquête eux-mêmes, mais on va dire de façon très courte et très lacunaire, mais simplement pour se faire une idée. A priori, des éléments qu'on va être amené à explorer et pour pouvoir adapter donc une stratégie d'enquête. Une fois ce travail d'exploration théorique et scientifique abouti et cette première prise de connaissance avec les terrains, il est donc possible de produire ce qu'on appelle la problématisation, donc l'argumentaire que j'ai décrit précédemment. C'est seulement une fois que ce travail et cet ensemble de points est constitué, qu'on peut considérer que l'objet scientifique est construit et que donc il sera possible d'enquêter de manière beaucoup plus aboutie et performante. L'enquête donc suppose un long travail d'investigation scientifique et éventuellement de terrain en amont. Et l'enquête suppose, une fois que le matériau est recueilli, qu'on a l'ensemble des informations à disposition, d'organiser ce matériau recueilli, de l'analyser et de l'interpréter. Une enquête en soi ne permet pas de conclure. Ce qui permet de conclure et de produire une connaissance, c'est l'analyse du matériau recueilli. Aussi, après l'enquête, une troisième étape importante dans une démarche de recherche est à produire, celle de l'analyse et puis de la rédaction des résultats et notamment de la conclusion. Je vous propose de reprendre l'ensemble de cette démarche à partir d'un exemple. Cet exemple est issu d'un mémoire réalisé par un étudiant sur les questions de l'autodétermination et de l'autoreprésentation. Alors, cet étudiant avait eu l'occasion, dans le cadre de sa vie personnelle, de rencontrer ce qui est appelé aujourd'hui des autoreprésentants. Les autoreprésentants sont des personnes qui présentent une déficience intellectuelle avec notamment une difficulté de langage, une difficulté à s'exprimer avec le français, mais aussi une difficulté à symboliser, une difficulté à produire une réflexion. Et l'autoreprésentation, c'est un dispositif, un processus d'apprentissage, une posture qui leur est transmise et qui leur permet de se présenter en tant que citoyen et de défendre des positions qui les concernent personnellement ou qui concernent leur pair, c'est-à-dire d'autres personnes déficientes intellectuelles. L'étudiant donc était très étonné, très surpris après la rencontre avec ses auto-représentants, et donc voilà, une thématique qui l'intéresse. Et deuxièmement, il avait aussi une intuition. Il lui semblait que, après avoir discuté avec ses auto-représentants, l'autodétermination, c'est-à-dire la capacité à faire des choix et à produire une réflexion, une argumentation autour de ses choix, n'était pas forcément une évidence, pas plus que la capacité à prendre des initiatives pour ce public. Donc cette intuition était ce qui va motiver, on va dire, ses premières recherches pour produire ce qu'on appelle donc une culture générale autour de l'autoreprésentation. Alors comment est-ce qu'il a produit cette culture générale autour de l'autoreprésentation? Tout d'abord, il s'est instruit de lectures réglementaires. Il a essayé de construire et de recenser le cadre réglementaire français concernant l'autoreprésentation. Il a aussi pris le temps de se documenter sur l'histoire de l'autoreprésentation en France, mais aussi sur l'histoire européenne et états-unienne de l'autoreprésentation. Il s'est demandé si sa compréhension, ou en tout cas ce qu'il imaginait être la déficience intellectuelle, était pertinent, et aussi il a pris le temps de la lecture sur qu'est-ce qu'une déficience intellectuelle. Enfin, il s'est intéressé à des concepts qu'il a vus tout au long de ses précédentes lectures, et notamment les concepts de vie autonome, d'autodétermination, d'empowerment, d'interdépendance, et il a pris le temps de lire des définitions dans des dictionnaires ou dans des encyclopédies. Donc tout cela lui a permis de constituer ce qu'on appelle une connaissance généraliste de son sujet, qui n'est pas une connaissance scientifique, mais simplement une connaissance un peu rigoureuse et un peu documentée de la thématique qui l'intéressait. Ça correspond donc à ce que j'ai appelé, dans le cadre du déroulé de la démarche, le travail d'information et de documentation préalable. Sur la base de ce travail de constitution d'une connaissance généraliste, il s'est demandé, finalement, maintenant que je sais tout ça, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que j'aimerais savoir? Qu'est-ce que je voudrais comprendre? Sa question de départ a finalement été formulée de la manière suivante. Est-il possible pour des personnes déficientes intellectuelles de s'autodéterminer dans le cadre d'un dispositif de soutien à la prise de décision animé par une personne ressource? Autrement dit, l'ensemble de ses connaissances accumulées lui ont aussi permis de connaître et de découvrir l'existence de dispositifs de soutien à la prise de décision, de s'informer sur leur fonctionnement et d'apprendre qu'il existe une fonction professionnelle qui s'appelle personne ressource et qui est aujourd'hui financée et qui a un statut dans un certain nombre de pays. Une fois cette formulation produite, l'étudiant avait donc en main les orientations de ses investigations préalables, exploratoires. Il allait donc pouvoir démarrer la phase que j'ai appelée travail exploratoire, qui est habituellement constituée essentiellement du point 2, c'est-à-dire l'état des lieux des connaissances scientifiques. C'est le moment où on commence à produire, on va dire, une réflexion scientifique fondée sur des connaissances scientifiques. Ce travail exploratoire peut être utilement complété par une micro-enquête de terrain qui permet à la fois de s'approprier des situations qu'on ne connaît pas du tout, d'avoir éventuellement de nouvelles idées pour construire l'objet scientifique, mais aussi de constituer, on va dire, un réseau de connaissances qui vous permettront ensuite de facilement accéder au terrain que vous choisirez dans le cadre des options que vous retiendrez dans l'enquête. Donc ce travail exploratoire consiste un, dans un état des lieux des connaissances scientifiques, il peut être complété par des observations de situation, aussi par leur analyse. Et ça permet de construire, à partir de ces deux types d'éléments, ce qu'on appelle donc la problématisation. La problématisation étant l'argumentaire dont je vous ai parlé antérieurement, qui reprend l'ensemble des théories scientifiques travaillées par l'étudiant. Là, en l'occurrence, il a opté pour un mémoire qui allait principalement mettre en avant les théories psychologiques sur l'autodétermination, qui montrent ainsi que l'autodétermination suppose de prendre en compte un certain nombre de contraintes, d'avoir accès à un certain nombre de ressources. Elle prend en compte aussi, bien évidemment, la question de la motivation. Et donc, il a produit un argumentaire qui montre, théorie par théorie, puisqu'il y a plusieurs théories psychologiques de l'autodétermination, quels sont les éléments et les facteurs constitutifs de cette possibilité à s'autodéterminer. Et il a montré que chacune des théories amène des facteurs ou des éléments nouveaux. Et c'est sur ces éléments nouveaux qu'il constitue son raisonnement en montrant que chaque théorie complète ou contredit la précédente. Ce qui l'amène, lui, finalement, à produire un état des lieux des connaissances scientifiques. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui après toutes ces étapes produites par ces ensembles de théories. Et voilà donc les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Donc ces questions de recherche aboutissent après avoir, au préalable, pu élaborer et s'être approprié un ensemble de théories, et ensuite être capable de les questionner, de les mettre en perspective, et d'en montrer l'intérêt, mais aussi les limites. Cet étudiant a aussi décidé de développer son travail exploratoire au-delà de l'état des lieux des connaissances scientifiques par une première phase d'observation assez courte. Il a, pour ce faire, contacté une association d'auto-représentants auquel il a demandé la permission et la possibilité de pouvoir participer à une ou deux de leurs réunions pour se faire une meilleure idée de leurs pratiques, des discussions qu'ils pouvaient avoir, des thématiques qu'ils pouvaient aborder, des actions qu'ils pouvaient envisager. L'association d'auto-représentants l'a accueilli bien cordialement. Et ce qui lui a permis de se poser de nouvelles questions auxquelles il ne s'attendait pas du tout et qui vont donc apparaître dans le cadre de la question de recherche que je vous présente maintenant. Voici donc l'aboutissement de ses réflexions en matière d'articulation théorie-pratique. La question de recherche est ainsi intitulée « Comment expliquer l'écart observable entre, d'une part, et là vous allez observer qu'il reprend les éléments qu'il a acquis dans le cadre de son observation de terrain, donc, d'une part, une mission de personne de ressources, le discours volontaire des auto-représentants et un modèle théorique visant l'autodétermination. Et, d'autre part, dans la pratique, une dépendance conscientisée par les personnes handicapées freinant le développement de leur autodétermination. Alors là, une part de ces éléments arrive de l'état des lieux des connaissances scientifiques, le modèle théorique visant l'autodétermination. Et une autre part des informations qui lui ont permis de produire cette question de recherche arrive de ses observations. Il a pu, en allant sur le terrain pour lire une fiche de poste de personnes ressources, donc ainsi il en connaît les missions, il a pu observer que les auto-représentants tenaient un discours très volontaire. Ils veulent s'autodéterminer, ils l'affirment. Il a pu observer aussi que lors des pauses café ou d'échanges dans un couloir, ces personnes pouvaient lui dire en aparté ou plus individuellement, mais en tout cas en dehors du groupe, bah qu'ils avaient quand même conscience que ils se sentaient un peu dépendants de cette personne ressource, qu'ils avaient besoin d'elle, qu'elle réponde à un certain nombre de leurs questions et que souvent ils ne prenaient pas de décision sans l'avoir consultée. C'est ce qu'il a appelé une dépendance conscientisée. Voilà, donc c'est sur l'ensemble de ces éléments, à la fois acquis dans le cadre d'une micro-enquête de terrain, mais vous voyez, sans grande préparation, qui n'est pas rigoureuse, qui n'est pas constituée scientifiquement, et un ensemble de lectures théoriques, et que c'est sur la base de ces deux éléments-là qu'il a pu produire donc un argumentaire et une question de recherche. Il s'est demandé, que puis-je répondre à cette question? Dans cette perspective-là, il a démarré une nouvelle phase de lecture scientifique, il a lu un certain nombre de théories, et il s'est plus int particulièrement intéressé à la théorie du stigmate d'Erving Goffman, que vous connaissez très certainement, et qui lui a permis de poser l'hypothèse suivante. je la lis, par la fréquentation d'un groupe d'auto-représentants, l'identité sociale de la personne handicapée est soumise à une tension entre identité sociale réelle et identité sociale virtuelle. Cette tension oblige la personne à une négociation interne subjective, se traduisant par une utilisation stratégique des actions d'auto-représentation dans le but d'assimiler identité pour autrui à identité pour soi. Autrement dit, dans un langage un peu moins théorique, l'option d'explication qui a été retenue par cet étudiant est que ces auto-représentants, quand ils rentrent dans un groupe d'auto-représentants, se découvrent des capacités, se découvrent des compétences, les développent et sont très surpris finalement de l'identité virtuelle qu'ils se découvrent. Et en même temps, ce n'est pas du tout cette identité-là qui leur est renvoyée dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire celle qui est intitulée « identité sociale réelle ». Autrement dit, il y a un écart entre ce qu'ils pensent d'eux et ce qui est pensé pour eux et sur eux et qui leur est renvoyé au quotidien en termes de reconnaissance. Bien évidemment, ça déstabilise la personne de se découvrir beaucoup plus compétente que ce qu'on l'on croit et elle souhaite être reconnue pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle vaut de son point de vue. Autrement dit, ça suppose qu'elle va réfléchir, qu'elle va produire ce qu'on appelle une négociation interne subjective et qui va l'amener à développer des stratégies d'utilisation, notamment des actions d'auto-représentation, pour faire valoir ses compétences, ses capacités, sa valeur. Bien, une fois donc la construction de l'objet scientifique produite, donc nous avons une question de recherche, nous avons une hypothèse, et nous avons tout un argumentaire théorique qui fonde à la fois la question de recherche, à la fois l'hypothèse, et donc il s'agit de monter l'enquête. Donc c'est ce que nous allons développer maintenant dans le cadre du cours. Simplement parce que j'imagine que vous êtes curieux et que vous avez envie de connaître la suite, voici l'enquête qu'il a montée. Il a choisi donc comme terrain une association d'auto-représentants avec laquelle il avait eu un contact assez agréable et avec laquelle il avait pu nouer un certain nombre de liens humains intéressants. Donc pour lui, la question de la faisabilité s'est peu posée puisque les contacts étaient déjà préalablement noués et satisfaisants. La population enquêtée était bien sûr celle des auto-représentants. Il a choisi de développer une enquête sur le mode des récits de vie. Pourquoi ? C'était une option pour lui en termes d'adaptation à un public qui a une difficulté à avoir un discours très précis, parce que simplement le français n'est pas une capacité... parce que l'usage du français n'est pas très aisé pour eux. Et qu'il est plus facile de raconter son histoire que de répondre à des questions précises. Donc un choix de technique d'enquête lié au type de population enquêtée, et avec bien sûr en amont et a priori la connaissance du fait qu'il y aura des limites à cette enquête, qui sont justement les capacités d'expression de ces auto-représentants. Voilà pour l'exemple. Je vous propose maintenant d'aborder le deuxième item, qui consiste en une présentation des différentes démarches de recherche. Alors, je vous rappelle ce que j'ai dit antérieurement. La démarche que je viens de vous proposer avec cet exemple de mémoire, c'est la démarche hypothético-déductive. Il existe d'autres démarches qui sont peut-être plus difficiles ou qui supposent d'avoir une plus grande expérience de la recherche. La démarche hypothético-déductive est peut-être celle qui est la plus claire dans ces cadres, la plus explicite, la plus carrée. Et donc, en général, c'est celle que l'on transmet dans le cadre d'une initiation à la recherche. Cependant, il y a d'autres démarches qui existent et qui sont très intéressantes, qui permettent beaucoup de créativité et qui permettent une production de connaissances peut-être plus fines ou plus construites dans le temps, plus fouillées. Et ce sont notamment donc la démarche inductive et la démarche itérative donc, que je vais prendre le temps de déployer devant vous et de vous expliquer. Alors, la démarche inductive. La démarche inductive est une démarche de recherche qui donne la priorité à l'empirie. À l'empirie, c'est-à-dire au sens, aux sensations, aux ressentis, à l'expérience du terrain. C'est-à-dire, c'est une démarche de recherche qui est le contraire de celle que je viens de vous expliquer, sur laquelle la démarche hypothético-déductive que je viens de vous expliquer mettait vraiment en avant l'importance des théories scientifiques, celle-là au contraire met vraiment en avant l'importance du terrain, de la réalité, du contact avec le réel. Je vais vous prendre un exemple très simple pour essayer de comprendre de manière assez rapide cette démarche. Donc là, vous voyez affiché, on va dire, de manière très réductrice et lacunaire, les trois grandes étapes de cette recherche, de cette démarche. L'exemple pourrait être le suivant. Imaginez qu'un chercheur se pose la question suivante. Donc sa question de recherche est: pourquoi certains animaux volent et pourquoi d'autres animaux ne volent pas? Vous allez me dire, cette question est particulièrement stupide, certes, mais en termes d'exemple pédagogique, elle est particulièrement pertinente et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Donc je continue avec elle. Un chercheur inductif donc donne la priorité au terrain, ce qui veut dire très concrètement qu'il va organiser tout un ensemble d'observations concernant les animaux et le plus d'animaux possible. Autrement dit, son enquête va consister en un tour du monde. Vous noterez que la recherche peut avoir des aspects très agréables. Un tour du monde dans lequel il va observer tous les animaux possibles et imaginables. Cette recherche et cette démarche sont tout aussi scientifiques que la précédente, et donc il va avoir établi tout un protocole d'observation avec un certain nombre de recueils de données qui seront fiabilisés, mais je vous épargne les détails méthodologiques. Mais sachez donc que c'est à la fois rigoureux, systématisé, et que ça prend énormément de temps puisqu'il faut avoir le terrain le plus exhaustif possible, donc le plus d'exemples d'animaux observés possible. Et sur cette base-là, une fois que le terrain est abouti, il va procéder à une analyse des matériaux recueillis. Donc il va mettre en perspective l'ensemble des animaux qu'il va avoir observés, il va relire l'ensemble de ses notes. Et il va pouvoir en conclure que dans le cadre du terrain opéré, les animaux qui volent sont ceux qui ont des ailes et les animaux qui ne volent pas sont ceux qui n'ont pas d'ailes. Et dans un deuxième temps de son analyse, il va opérer ce qu'on appelle une montée en généralité ou une généralisation, comme vous préférez, et en tirer un grand principe ou une grande loi: pour voler, les animaux ont besoin d'ailes. Pourquoi j'ai pris cet exemple pédagogique, vous allez comprendre très rapidement. Je vais vous poser une question. Quelles sont les limites de ce type-là de démarche de recherche? Qu'est-ce qui fait que cette démarche-là de recherche n'est pas infaillible? Pourquoi on peut se tromper? Pourquoi la conclusion peut être fausse et a fortiori la généralisation? Eh bien, essayez de réfléchir à quels sont les animaux qui ont des ailes et qui ne volent pas. Ça existe. Une poule ne va pas très loin, sinon elle ne se ferait pas écraser par les voitures. Donc, vous venez de comprendre que si le chercheur n'a pas l'occasion d'investiguer la totalité des terrains existants et concernant son sujet, il peut toujours manquer à son observation l'exception qui confirme la règle, et donc il peut faire erreur sur la conclusion qu'il en tire. Donc, les conclusions d'une démarche inductive sont toujours justes dans le cadre du terrain mis en œuvre. La généralisation est toujours sujette à caution. Simplement parce qu'on ne sait jamais si l'ensemble des terrains types ont été investigués ou pas. Voilà donc pour la compréhension que je souhaitais pouvoir vous transmettre de la démarche inductive. L'autre démarche qu'on a déjà travaillée ensemble, la démarche hypothético-déductive, est donc une priorité donnée aux connaissances scientifiques a priori. C'est donc l'idée qu'une démarche scientifique est fondée sur d'autres connaissances scientifiques qui ont été produites par d'autres chercheurs en amont, et que c'est sur ces bases fiables que peut se construire donc un questionnement et un objet scientifique. Ensuite, donc, on mène l'enquête, comme je viens de vous l'expliquer, on analyse les matériaux et on conclut. Donc ça, c'est le protocole classique de la démarche hypothético-déductive. Ensuite, la démarche itérative. Une démarche un peu plus complexe et qui peut être considérée à la fois comme un mixte des deux précédentes, mais aussi comme une démarche qui comprend davantage d'étapes que les deux précédentes. Simplement en fait parce que la démarche itérative consiste bien sûr, et tout d'abord, il faut construire l'objet scientifique, il faut qu'on connaisse quel est le questionnement posé. Il peut y avoir ou pas des hypothèses. Et ensuite, on part sur le terrain pour une première fois. Donc, on construit un premier protocole d'enquête. On met en œuvre cette enquête. On en tire des conclusions. Mais ces conclusions sont considérées comme temporaires et elles servent à bâtir de nouveaux axes d'investigation qui, eux, vont être travaillés à partir d'une deuxième enquête, donc d'un deuxième protocole d'enquête, etc., jusqu'à ce qu'il y ait saturation et des questions et de l'investigation de l'ensemble des hypothèses ou de l'ensemble des axes d'investigation produits. C'est donc une démarche qui peut être considérablement longue, mais qui permet d'aboutir à une connaissance extrêmement fine, voire d'enteler des phénomènes dont on souhaite expliquer l'apparition ou le fonctionnement. Cette démarche est assez classique aujourd'hui en sciences humaines et sociales. Je vous propose maintenant d'essayer d'observer des plans de mémoire qui vont vous permettre de voir finalement comment on produit un plan suivant l'option qu'on a retenue, c'est-à-dire une démarche scientifique de type hypothético-déductif ou une démarche scientifique de type inductif. Alors, voici un premier plan de mémoire. Vous avez présenté devant vous l'introduction et la première partie de ce mémoire, la deuxième partie étant consacrée à l'enquête ou aux enquêtes suivant la démarche qu'on a construite. Alors, si vous analysez ce plan de mémoire, ce plan de première partie de mémoire, vous devriez pouvoir me dire si ce mémoire est en démarche hypothético-déductive ou en démarche inductive. Alors, vous observez que vous avez une introduction, ce que vous retrouvez dans n'importe quelle mémoire, quelle que soit la démarche. Puis, dans cette première partie, un certain nombre de chapitres. Quel est le contenu de ces chapitres? Donc, c'est un mémoire qui porte sur la question du secret professionnel dans le cadre du travail social. Le premier chapitre développe un certain nombre de connaissances qui concernent le secret professionnel en France. Donc, d'abord, son histoire, son origine, son fondement, les sources réglementaires contemporaines. Le type de professionnel concerné est tenu à ce secret. Qu'est-ce qui est considéré comme une violation de ce secret et quelles sont les exceptions à ce secret? Là, vous pouvez tout de suite appréhender qu'il s'agit de connaissances généralistes sur votre sujet et non pas de connaissances scientifiques. Il ne s'agit pas d'apports théoriques. Le chapitre 2, de quoi est-il constitué? Ce chapitre 2, finalement, vous propose de connaître les terrains sur lequel ce secret professionnel est pratiqué. Donc, vous observez qu'on vous informe concernant les missions des services sociaux, leur organisation, les cadres opérationnels, les différents types de travailleurs sociaux, la façon dont ils se positionnent par rapport au secret professionnel, leur usage paradoxal du secret professionnel, ce qui suppose que vous avez été mettre en œuvre une observation de terrain, et ensuite une problématisation. Vous voyez bien que les contenus de ce deuxième chapitre ne sont pas plus théoriques que le premier et qu'il s'agit bien davantage d'une enquête de terrain avec observation et probablement interview pour connaître le point de vue des travailleurs sociaux sur le secret professionnel. Et c'est sur cette base-là, sur la base de ce chapitre 1 et de ce chapitre 2, qu'est produite la problématisation. Donc vous pouvez constater qu'en lisant la première partie, simplement le sommaire, vous pouvez en déduire quelle est la démarche qui a été choisie par cet étudiant, et là en l'occurrence, une démarche qui privilégie une investigation de terrain et un questionnement fondé sur une investigation de terrain, donc une démarche inductive. Deuxième mémoire, deuxième exemple, un mémoire qui a porté sur l'échec scolaire. Pareillement, vous avez une introduction et vous avez une première partie, je ne vous ai pas donné la suite de mémoire, ça présente peu d'intérêt pour la question qu'on se pose, c'est-à-dire quelle est la démarche de recherche qui a été choisie pour traiter le sujet de l'échec scolaire. Vous constatez que dans ce chapitre 1, l'étudiant fait l'anamnèse de l'ensemble des études scientifiques qui ont été conduites sur l'échec scolaire en France. Donc vous avez des théories relatives aux aptitudes des élèves, des théories relatives à la multiplicité des sources de connaissances et leur possible antagonisme, des théories relatives au cadre éducatif et normatif, des théories relatives à la reproduction sociale par l'institution scolaire. Vous voyez donc que cet étudiant s'est intéressé aux productions scientifiques produites en amont sur son objet, qu'il en a fait l'exposé, qu'il en a montré les éléments phares, probablement les limites, qu'il les a discutées, montré comment les unes et les autres se complétaient, et enfin donc quelles questions n'avaient pas encore été posées ou quelles questions se posaient aujourd'hui au regard des nouvelles connaissances. Très clairement, à l'analyse de ce premier chapitre, vous pouvez en déduire que la démarche de recherche qui a été choisie est une démarche de recherche de type hypothético-déductive qui se fonde sur un état des lieux scientifique. Nous allons donc passer à l'item suivant qui consiste à développer l'ensemble des phases nécessaires à produire pour construire une enquête. Donc, je vous propose d'abord d'étudier et de prendre connaissance de l'ensemble de ces phases. Tout d'abord, pour construire une enquête, il faut en connaître les objectifs. Vous ne pouvez pas faire une enquête si vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez savoir. Donc, la première chose qu'il va falloir produire dans le cadre du protocole d'enquête, c'est déterminer les objectifs, qu'on peut aussi appeler les axes d'investigation. Ensuite, une fois qu'on sait ce qu'on cherche, on va dans un deuxième temps déterminer quel sera le terrain d'enquête et aussi d'autres éléments afférents comme sa faisabilité ou son accessibilité. Déterminer quelle est la population ou quelles sont les ressources qu'on mobilisera dans le cadre de ce terrain. Ce qui veut dire qu'il peut, et en général, il y a plusieurs populations sur un même terrain, elles ne sont pas toutes enquêtées ou pas toujours, et qu'il peut y avoir aussi intérêt non pas à enquêter auprès de populations ou de publics, mais aussi d'enquêter sur des archives, des documents, des objets, des vidéos, des situations et non pas des publics, et que l'ensemble donc de ces ressources sont très pertinentes dans le cadre d'une enquête de terrain. Donc il va falloir choisir sur quel type d'éléments vous allez focaliser votre investigation. Une fois que vous savez quoi et qui ou que observer, vous allez pouvoir décider comment, donc déterminer quelle est là ou les techniques d'enquête que vous allez mobiliser, construire les outils de l'enquête et ensuite réfléchir aussi aux limites méthodologiques de votre enquête et voir s'il y a possibilité ou pas d'y pallier et dans quelle mesure. Voilà donc les différentes phases qu'il va falloir produire pour pouvoir construire et rédiger votre protocole d'enquête. Pour, on va dire, simplifier la mémorisation de la construction des étapes d'une enquête, vous pouvez aussi simplement vous dire que, très pragmatiquement, une enquête, c'est répondre à trois questions. Observer quoi, observer qui et observer comment. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur la première question, observer quoi. Observer quoi revient à être capable de dire très clairement quels sont les objectifs de l'enquête. Donc, quels sont les objectifs de l'enquête? Ils ont été partiellement élaborés dans le cadre de la problématisation. La problématisation permet d'orienter en termes de questions et aussi en termes d'hypothèses. Ceci dit, si observer quoi et donc si déterminer les objectifs de l'enquête va supposer donc de retourner à la problématisation et surtout à l'hypothèse, vous comprenez bien que si votre hypothèse porte par exemple, là, dans le cas présent, dans le cas de l'exemple qu'on avait antérieurement mobilisé, notre hypothèse portait sur les capacités d'autodétermination des autoreprésentants. Vous comprenez bien que observer des capacités d'autodétermination, sauf si vous vous en rencontrez régulièrement se promenant sur le trottoir dans la rue, mais pour ma part, je n'en rencontre jamais, ça va être difficile. Donc, comment est-ce qu'on fait pour observer quelque chose qui est conceptuel, qui est théorique? Et c'est tout l'objectif qui est sous-tendu dans la réponse à la question observer quoi? Être capable de déterminer les objectifs d'une enquête, c'est être capable de dire, à partir d'une problématisation qui généralement contient énormément d'éléments théoriques, comment on passe d'une théorie à une observation dans le réel et donc à la réalité? Comment on passe d'une pensée, de concept, d'idée à des éléments concrets dans la vie de tous les jours ou des éléments concrets, matériels, observables. Donc, c'est vraiment un élément, une phase du protocole d'enquête qui est absolument primordiale. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches produites notamment par des étudiants, mais pas seulement, qui sont invalidées par le simple fait que cette phase a été shuntée ou mal préparée. Et finalement, l'étudiant ou le chercheur peut aller investiguer ou observer des choses qui sont absolument inutiles et qui ne répondent pas ni à son hypothèse ni à ses questions. Donc, c'est perdre du temps. Donc, vraiment, il est important, essentiel, primordial, de s'intéresser et d'approfondir un tant soit peu la réponse à cette question, observer quoi? Alors, observer quoi? Il y a deux manières d'y répondre. Vous êtes inscrit dans une démarche de type hypothético-déductive. Il vous faut vous fonder et retourner à l'hypothèse. Donc, s'il y a hypothèse, pour savoir ce que vous devez observer, vous devez retourner à votre hypothèse. Parce qu'en réalité, le premier objectif de cette enquête, c'est de dire si oui ou non cette hypothèse est valide. Est-ce que ce qu'elle affirme est vrai ou faux? Donc, quand, dans une démarche hypothético-déductive, l'enquête est fondée sur l'hypothèse parce qu'elle vise à infirmer ou à confirmer, à invalider ou à valider l'hypothèse produite. En général, cette hypothèse contient des concepts, contient des idées qui ne sont pas directement observables. C'est donc dans ce cadre-là qu'on va produire ce qu'on appelle un modèle d'analyse. Le modèle d'analyse, c'est l'étape par laquelle on passe de concepts et d'idées à un terrain, à des faits observables. Je vous propose donc, dans un deuxième temps, à la diapo suivante, de commencer à travailler comment produire un modèle d'analyse. Avant de passer à la diapo suivante, j'aimerais juste vous informer que dans le cadre d'une démarche inductive, il n'y a pas d'hypothèse. Il n'y a pas d'hypothèse, qu'on démarre simplement sur les questions qui ont été produites dans le cadre de la problématisation, et que donc en général, on décline simplement un certain nombre d'axes d'investigation qui correspondent à des dimensions observables et qui permettent de répondre à ces questions. Je ne prendrai pas le temps de répondre ou de déployer comment procéder dans le cadre de la démarche inductive. C'est quelque chose que vous aurez l'occasion d'approfondir dans des enseignements d'un niveau plus soutenu et dans le cadre d'un approfondissement de qu'est-ce que faire de la recherche si vous souhaitez effectivement poursuivre vos études en sociologie ou dans d'autres sciences humaines et sociales. Donc, observer quoi? Se fonder sur une hypothèse permet tout d'abord de déterminer le type de données à recueillir. Donc, quand vous lisez votre hypothèse, si vous devez pouvoir savoir si ce que vous devez recueillir est de l'ordre de données factuelles, qui sont souvent ce qu'on appelle les données objectives, ou de données au contraire plus subjectives, qui relèvent de ce que pensent les individus. Donc, ces deux types de données très différentes. Ces données factuelles sont généralement observables ou peuvent être enquêtées avec un questionnaire, c'est-à-dire que vous pouvez donner une feuille qui contient des questions à un certain nombre d'individus qui vont pouvoir vous répondre de manière assez simple. Oui, je suis chauffé au gaz ou non, je suis chauffé à l'électricité. Mais voilà, c'est des données assez factuelles et ça ne suppose pas d'entrer dans les méandres de la subjectivité d'autrui. Mais par contre, si vous vous intéressez aux raisons du choix de ce chauffage par l'électricité ou de ce chauffage au gaz, il est très possible que ce soit intéressant, au contraire, de savoir comment les individus se représentent le gaz ou l'électricité ou le chauffage au gaz et le chauffage à l'électricité, et de rentrer dans leur imaginaire. Et là, en l'occurrence, pour comprendre ça, vous avez besoin de données plus subjectives. Donc tout dépend de ce que vous avez inscrit dans votre hypothèse, et c'est à vous donc de le déterminer. Donc prenez le temps de la lecture. Ensuite, j'aimerais aussi vous dire, et ça c'est un point très important, il n'y a pas de méthode de recueil de données qui soit meilleure qu'une autre. En réalité, chaque méthode de recueil de données, c'est-à-dire vous pouvez procéder à des interviews, vous pouvez procéder à de la passation de questionnaires, vous pouvez faire de l'observation, c'est les trois grands types de recueil de données qu'on aura l'occasion d'approfondir cette année ensemble, ne permettent pas de recueillir les mêmes données. Donc ce n'est pas parce que l'interview c'est mieux que le questionnaire ou parce que le questionnaire serait supérieur à l'observation qu'on va choisir une méthode ou une autre. Ça dépend du type de données à recueillir. On choisit la méthode en fonction de la donnée ou du type de données qu'on a décidé d'investiguer. Donc, c'est la raison pour laquelle on détermine d'abord le type de données pour pouvoir ensuite dire, ah ben finalement, je vais pouvoir opter plutôt pour l'interview parce que c'est plus pertinent, ou plutôt pour un questionnaire, ou plutôt pour de l'observation. Autrement dit, l'attitude très classique qui est de dire, moi je vais interviewer des personnes parce que j'aime bien rencontrer des gens, n'est pas pertinente du point de vue d'une démarche de recherche. On interviewe parce qu'on est intéressé à connaître l'imaginaire, la subjectivité, les représentations sociales d'un collectif d'individus. On n'interviewe pas parce qu'on aime les relations humaines. Ça n'a pas d'intérêt scientifique. Je vous propose de partir d'un exemple très concret et qui vous permettra de mieux appréhender comment on détermine, donc à partir d'une hypothèse, un protocole d'enquête et surtout donc les objectifs de l'enquête, puisque c'est l'item qu'on développe aujourd'hui ensemble. Bien, je vous propose donc de voir tout ça dans le cadre d'un exemple. Donc, l'ouvrage théorique d'Émile Durkheim intitulée Le suicide. On va reprendre donc la démarche hypothético-déductive et essayer de déterminer à partir de la problématisation d'Émile Durkheim quels sont les objectifs de l'enquête. Alors je vous resitue succinctement cette étude. Si vous ouvrez l'ouvrage, vous constaterez qu'il y a toute une première partie qui est constituée d'un état des lieux des connaissances scientifiques opérées par Émile Durkheim à son époque, c'est-à-dire le 19e, hein, fin 19e siècle. Et donc une discussion, comme je vous ai expliqué, un état des lieux consiste en un exposé, une discussion des théories, un amendement de ces théories où il montre que les théories qui proposent des origines ou des causes climatiques ou psychologiques au suicide sont invalides pour telle et telle raison. Et une proposition donc de développer une connaissance qui serait fondée sur les causes sociales du suicide, d'où sa question. Alors, c'est bien sûr pas la question d'Émile Durkheim, et si vous lisez l'ouvrage, vous verrez que c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus fouillé et abouti. Mais ceci dit, pour les besoins de la pédagogie, je réduis ces quelques centaines de pages à une seule question. Quelles sont les causes sociales du suicide? Et je vous propose pareillement de réduire la réponse qu'il y propose, qui est aussi dans l'ouvrage produite en plusieurs dizaines de pages, à une seule ligne. L'hypothèse, dans le cadre de cet exercice pédagogique d'Émile Durkheim, sera le degré d'intégration sociale détermine le taux de suicide dans un milieu social donné. Donc voilà, on part d'une problématisation qui est constituée d'une question de recherche, d'une hypothèse, on est donc dans une démarche hypothético-déductive. Et il va s'agir donc de se demander quels sont les objectifs de cette enquête et comment faire pour les déterminer. Vous voyez bien que tous les jours, vous n'observez pas un degré d'intégration sociale. Ça ne fait pas partie des choses qu'on rencontre dans son quotidien et que donc il va falloir passer de ce concept-là à une observation de faits concrètes. Donc comment passer de ces concepts à l'observation dans le cadre d'une enquête ? D'abord, revenir au fait que la démarche hypothético-déductive consiste à valider ou invalider une hypothèse. Ça peut aussi s'appeler une démarche de falsification de l'hypothèse. Alors, donc, il faut penser falsification de l'hypothèse et il s'agit, si vous êtes en démarche inductive, de discriminer des axes d'investigation puisque vous n'avez pas d'hypothèse. Alors, on retourne à la démarche hypothético-déductive. Vous voulez opérationnaliser votre cadre théorique. Comment est-ce qu'on passe de ce concept à un terrain? D'abord, comment est-ce que je peux falsifier mon hypothèse? Alors, falsifier son hypothèse consiste à énoncer des falsificateurs, des énoncés falsificateurs. Un énoncé falsificateur, c'est un énoncé de quelque chose qu'on pourrait observer et qui, si on l'observe, montrerait que cette hypothèse est fausse. Donc, il s'agit de trouver des phrases qui affirment quelque chose. Et si on peut observer ces affirmations, alors, dans ce cas-là, on peut montrer que l'hypothèse qui a été préalablement retenue est invalide. Dans le cadre de l'hypothèse d'Émile Durkheim, je vous rappelle donc, le taux de suicide varie en fonction du degré d'intégration d'un milieu social. Il y a plusieurs possibilités de falsification. Vous pouvez d'abord montrer et observer que quand le degré d'intégration sociale ne varie, vous n'observez pas dans le même temps un taux de suicide. Donc si la corrélation n'est pas observée, effectivement, vous pourrez montrer que les deux variations sont indépendantes et donc que cette hypothèse est fausse, qu'il n'y a pas de corrélation entre ces deux variables. Deuxième possibilité de falsification, vous pouvez montrer que quand le degré d'intégration sociale augmente, vous n'observez pas une baisse du taux de suicide. Soit le taux de suicide est constant, soit il augmente et donc l'hypothèse est fausse. Troisième énoncé falsificateur, vous pouvez aussi observer que lorsque le degré d'intégration sociale d'un milieu baisse, vous n'observez pas corrélativement une hausse du taux de suicide et donc par conséquent, vous ne pouvez pas constater que votre hypothèse est valide. Concrètement, ceci dit, observer un degré d'intégration sociale, vous êtes d'accord avec moi, il s'agit d'un concept et pas d'un fait. Donc comment est-ce qu'on passe de ces concepts aux faits? Qu'est-ce qu'on va observer très concrètement? Le taux de suicide, le sociologue, le scientifique Et généralement, un individu qui a une charge de travail absolument considérable et qui donc, quand il peut s'en épargner, n'hésite pas. En l'occurrence, le taux de suicide, la plupart du temps, le sociologue se contente des observations opérées par l'INSEE. L'INSEE produit annuellement des taux de suicide par population, par zone géographique, etc. Et donc, dans ce cadre-là, vous pouvez, si vous voulez mettre en œuvre ce type-là d'enquête, simplement consulter les taux produits par l'INSEE. Par contre, le concept qui est l'intégration sociale d'un milieu, comment l'observer? Il se trouve que vous n'aurez aucune institution ou aucun observatoire qui vous produira des données fiables sur ce sujet. Il va donc falloir opérer l'enquête par vous-même. Très concrètement, pour pouvoir observer quelque chose qui permettrait de dire le niveau ou le degré d'intégration sociale d'un milieu, faut-il d'abord savoir qu'est-ce que l'intégration sociale d'un milieu? Donc pour ce faire, vous allez retourner à la théorie d'Émile Durkheim, vous allez ouvrir l'ouvrage, le lire consciencieusement et essayer de comprendre de quoi parle Émile Durkheim quand il parle d'intégration sociale. Et c'est en faisant ce travail que vous allez vous rendre compte que Émile Durkheim envoie plusieurs dimensions à ce phénomène d'intégration sociale. Quand il parle d'intégration sociale, il peut parler d'intégration sociale concernant la dimension religieuse de la vie quotidienne, ou il peut encore parler de la dimension juridique ou de la dimension familiale. Donc vous commencez à repérer les thématiques à travers lesquelles Émile Durkheim parle d'intégration sociale. Ceci dit, observer des thématiques n'est pas plus faisable que d'observer un concept. Il va falloir donc dire qu'est-ce qui, dans ces thématiques, est observable et peut permettre de penser le degré d'intégration sociale. Donc une fois qu'on a déterminé les dimensions du concept, les dimensions du concept d'intégration sociale, il va falloir en déterminer pour chaque dimension les différents indicateurs. Donc vous avez finalement une arborescence qui commence à se dessiner. À partir du concept, vous déclinez un certain nombre de dimensions et à partir de chacune des dimensions, vous pouvez déterminer un certain nombre d'indicateurs, les indicateurs étant directement observables. Ça vous donne par exemple pour la dimension l'emprise religieuse sur un milieu, l'arborescence suivante. Émile Durkheim, quand vous relisez son ouvrage, vous vous rendez compte que dans le cadre de la dimension emprise religieuse, il réfléchit à la place du libre examen. Pour lui, il y a une différence en termes d'intégration sociale d'un milieu selon que l'individu est obligé d'aller se confesser à l'église devant un membre du personnel ecclésiastique, ou bien s'il peut simplement et librement examiner sa vie au quotidien, chaque soir, tout seul, en tête-à-tête avec son Dieu. Émile Durkheim estime que l'individu est plus libre quand il examine seul et en face à face avec Dieu dans sa conscience l'ensemble des activités de sa vie quotidienne que lorsqu'il est obligé d'énoncer et éventuellement de dénoncer un certain nombre de ses activités de la journée devant un membre du clergé. Voilà, donc il considère que le degré d'intégration sociale, c'est-à-dire l'emprise qu'un milieu a sur l'individu, est plus important dans le cadre de la confession que dans le cadre de l'exercice du libre examen. Pareillement, autre exemple, c'est l'importance numérique du clergé. Émile Durkheim estime que plus il y a de membres du clergé, plus le clergé a une emprise, a un pouvoir de coercition sur la vie quotidienne de l'ensemble des membres de la communauté religieuse. Troisième item ou troisième indicateur observable, l'emprise de la religion sur la vie quotidienne, ce qui veut dire très concrètement, est-ce que dans la vie quotidienne, on peut observer ou pas l'énoncé de discours religieux, l'énoncé de la mise en œuvre de pratiques religieuses. En l'occurrence, est-ce que les familles récitent le bénédicité au moment de démarrer le repas, par exemple? Pareillement, il s'intéresse à la pratique de nombreux rites en commun, et les rites en commun, c'est notamment aller à la messe, ou communier, ou mettre en œuvre un baptême, un mariage à l'église. Cinquième chose observable qui intéresse particulièrement Émile Durkheim, c'est est-ce que les prescriptions religieuses, les dogmes, les principes religieux sont oui ou non devenus des principes légaux, c'est-à-dire se retrouvent dans le droit d'un pays, et doivent être appliqués au nom du droit, au nom de la loi, et non plus seulement au nom de la religion. Donc, par exemple, un principe religieux qui est devenu principe de droit dans notre pays est tu ne tueras point, sauf quelques exceptions très encadrées qui peuvent être, par exemple, l'euthanasie. Voilà, donc pour chacune des dimensions, et Mildenkainf en décline plusieurs, hein, il parle de l'emprise religieuse, il parle de l'emprise juridique, il parle de l'emprise familiale. Pour chacune de ces dimensions, il faut trouver des items observables très concrètement. Vous pouvez vous fonder sur les exemples proposés par Émile Durkheim, mais aussi en produire par vous-même au regard des milieux que vous voulez investiguer. Donc, en conclusion de ce module, nous avons vu tout d'abord que l'enquête est un temps, une étape dans la démarche de recherche, qu'elle est située entre une phase exploratoire qui permet de construire l'objet scientifique et une dernière phase qui est une phase d'analyse et de rédaction des résultats. Nous avons vu également qu'il existe plusieurs démarches de recherche, la démarche hypothético-déductive, qui est celle qui sera principalement transmise dans le cadre de ce cours, la démarche inductive, la démarche itérative. Et enfin, nous venons de voir que pour monter un protocole d'enquête, il s'agit d'être capable et d'être en mesure de répondre à trois grandes questions au moins. Quoi observer? Quels sont les objectifs de l'enquête? Qui ou que observer et comment observer? Dans le prochain module, nous verrons comment construire un protocole d'enquête une fois que les axes d'investigation sont déterminés ou que les objectifs d'investigation sont déterminés. Je vous dis à bientôt.